Moi, depuis toujours, je lis à voix haute. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, pour lire une pièce de théâtre...
À voix haute.
On va essayer à tour de rôle. Qui veut commencer?
Moi.
Je m'appelle Lina et c'est la première fois que je vais rencontrer Pierre.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Ça s'appelle Kilt, comme la jupe des Écossais, mais avec deux L. Et en fait, cela n'a rien à voir. Kilt est l'acronyme de qui lira le texte, une invitation collective à la lecture à haute voix d'une pièce de théâtre. Une idée que l'on doit à Olivier Letellier, metteur en scène et directeur des Tréteaux de France. Bonjour Olivier Letellier.
Bonjour.
Quelques mots sur les Tréteaux, car c'est un théâtre très particulier, c'est un théâtre sans théâtre.
C'est ça, c'est un centre dramatique national itinérant. Donc on est à Aubervilliers où là on a des studios de répétition, une fabrique. Et ensuite notre mission c'est d'aller amener le théâtre là où il n'y a pas de théâtre justement. Et c'est une institution qui existe depuis plus de 65 ans, qui a énormément œuvré pour la décentralisation du théâtre en France, mais pas que, puisque on va aussi, enfin en tout cas pas qu'en France métropolitaine, mais on va aussi beaucoup dans les territoires ultramarins, dans d'autres pays, au Bénin ou autres. Et là, l'idée, c'est vraiment, pour moi, depuis que j'ai pris la direction, de fabriquer des formes qui vont pouvoir aussi bien se jouer dans les vestiaires d'équipements sportifs, dans des salles de classe, dans les halls des mairies, enfin dans des lieux qui ne sont pas habituellement des lieux de théâtre.
Les Tréteaux de France, est-ce que ça emprunte à Molière qui a commencé avec sa compagnie, avec un théâtre de Tréteaux et en allant de ville en ville?
Très certainement, oui, effectivement. C'est l'idée d'être ultra léger, de pouvoir s'installer même sur une place. Alors avant, c'était avec les chapiteaux. Aujourd'hui, on va dans des bâtiments qui sont autres.
Et l'idée, c'est d'être au plus près du public.
Exactement.
Et c'est ce qui m'a forcément plu. De public qui ne connaît pas trop le théâtre ou qui n'y a jamais été ou qui sait à peine ce que c'est.
Exactement.
Ou qui a une fausse idée.
L'idée, c'est justement de s'adresser à ces nouveaux spectateurs qui ne savent même pas, qui sont des publics, mais qui ne savent pas encore qu'ils sont des spectateurs potentiels. Des gens qui n'ont pas les codes, les gens qui se disent que le théâtre, ce n'est pas pour eux. Des gens qui, peut-être, ont peur de rentrer dans ces grandes maisons, dans ces temples de la culture. Peut-être parce qu'à l'école, on leur a appris que le théâtre, c'était uniquement Molière et de la littérature en costume. Bien nous, on va leur montrer que c'est autre chose. En fait, on va essayer qu'ils nous invitent chez eux, dans des lieux qui leur appartiennent, qu'ils connaissent. Et une fois qu'on est invité chez eux, on les invite chez nous à venir écouter les pièces qu'on a envie de leur raconter.
Et depuis 2022, date à laquelle vous avez été nommé à la tête des Tréteaux, Olivier Letellier, vous avez décidé de proposer des textes contemporains dans un dispositif innovant qui est donc ce fameux Kilt, qui fait du spectateur, en fait, un acteur de la pièce. C'est très économique comme forme, parce qu'en fait, il y a un seul acteur et c'est le public qui joue les autres rôles.
Alors, c'est pas si économique que ça, parce qu'il n'y a que 15 spectateurs. Donc, du coup, l'équilibre, un spectateur pour 15, c'est pas vraiment la raison qui nous a poussé à faire ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de proposer aux spectateurs une expérience de spectateur totalement singulière, de les inviter à venir voir, peut-être. Enfin, ils viennent pour une lecture, ils pensent qu'ils vont assister à une lecture, peut-être. Et puis, en fait, ils deviennent lecteurs et petit à petit, ils deviennent acteurs. Ils engagent leur corps, leur voix, collectivement, individuellement. Ils sont invités à lire le texte. Et le principe, c'est que le texte n'est pas dans un livre, mais il sort du livre. Il est écrit sur les quatre murs, au sol, sur des objets. Et chaque scène est une invitation à la lecture différente.
Donc, en fait, le public, et j'en ai fait partie, rentre dans une pièce, est accueilli par un comédien qui est un peu un guide et qui nous propose de lire des textes qui sont un peu partout, oui, en effet, sur des panneaux, mais pas que sur des panneaux, écrits en bleu ou rouge. Et c'est ça qui détermine qui dira le texte.
C'est ça. Effectivement, en fait, juste avant de rentrer dans cette salle où il y a tout le texte, il y a un peu un mode d'emploi, quatre feuilles, quatre panneaux sur le mur où on va s'amuser à se répartir la parole et à se donner le code. C'est simple. Moi, je lis ce qui est en bleu, vous lisez ce qui est en rouge. Et en fait, je vais guider moi, comédien, les spectateurs, simplement en allant à un endroit de la salle, en lisant bleu, et eux me donnent la réplique rouge qui est juste en dessous. Bleu, rouge, bleu, rouge. Et puis après, je vais ailleurs, et ça se guide simplement comme ça. Je n'oblige jamais le spectateur à prendre la parole, à lire, je l'invite.
Mais ce n'est pas non plus un spectateur qui prend le rôle du père, de la mère, de la fille. Tout ça est réparti entre l'ensemble des 15 spectateurs. Est-ce que ça change tout ?
Pour le comédien ?
Non. Pour le spectateur, de s'accaparer comme ça le texte.
En fait, souvent, à l'issue de la représentation, les gens nous disent « mais en fait, c'est une expérience parce qu'on incarne les personnages ». Je dis « c'est quoi la différence entre faire un spectacle et voir un spectacle pour vous ?» Ben, c'est que, du coup, les paroles, elles ont plus de poids puisque c'est nous qui les portons. Et pour les plus jeunes, de pouvoir dire des mots qui sont des mots d'auteur, qui abordent des thématiques d'aujourd'hui, des problématiques qui les préoccupent mais qu'ils ne savent pas forcément nommer, c'est extrêmement engageant.
Comment est née cette idée, Olivier Letellier ? C'était une intuition ou depuis longtemps vous réfléchissiez à ce concept et à cette manière de permettre au public de s'approprier le texte et donc la réplique et donc d'incarner un personnage ?
Moi, je m'adresse à l'enfance et à la jeunesse depuis toujours. Alors, on fait ce qu'on appelle de l'action culturelle. À côté, c'est toujours des ateliers où on se demande comment est-ce qu'on peut faire toucher du doigt ce que c'est que de faire du théâtre. Et les comédiens avec lesquels je travaille, je les voyais beaucoup être des animateurs d'ateliers et ne pas pouvoir montrer ce qu'était leur métier, c'est-à-dire de dire eux aussi des textes. Et j'avais envie d'inventer un dispositif qui leur permettrait ça et qui permettrait aussi aux spectateurs de plonger rapidement dans l'intégralité d'une pièce. Ça a toujours été pour moi extrêmement important de rendre actif le public, puisque moi, je viens du conte, j'aime raconter des histoires, et à cet endroit-là, en fait, on rend le spectateur plus actif que quand il est au théâtre ou quand il est au cinéma, où il est plus voyeur. Moi, je passe un pacte avec lui. Je dis, on dirait que. Et c'est ce rapport-là qui me plaît, cet imaginaire qui va se déployer dans l'esprit de chacun des spectateurs, où il va pouvoir prendre part et imaginer, se voir, se dessiner les personnages, les situations, les paysages, comme lui, il a envie de les voir.
Et selon ce principe, donc, vous êtes en tournée, Olivier Letellier, avec Mauvaise Pichenette, qui est la troisième pièce commandée à une autrice contemporaine, en l'occurrence c'est Magali Mougel, pour ce dispositif Kilt, dispositif de lecture à haute voix. Alors vous allez nous raconter la suite et notamment le propos de cette pièce Mauvaise Pichenette, mais il nous faut d'abord passer un coup de fil ailleurs en francophonie. Ailleurs à Rosehill sur l'île Maurice avec Anaïs Robert, bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission culturelle à l'Institut français, vous avez toute une série de bonnes nouvelles pour la semaine de la francophonie et notamment un événement littéraire et éditorial pour lire Césaire en créole.
Oui, tout à fait. Alors, l'Institut français de Maurice organise, donc, dans le cadre de la fête de la francophonie, le lancement de l'ouvrage de Michel Ducasse, écrivain et poète mauricien. Son ouvrage s'intitule « Dans Balizard Barlizour ». Il est édité par Villa Métis et publié chez Précigraphe. Et c'est une traduction en créole mauricien de l'ouvrage poétique d'Aimé Césaire, « Cahier d'un retour au pays natal ». L'ouvrage, en fait, se présente, et c'est une première fois dans le monde créolophone, se présente sous forme d'un recueil bilingue français-créole mauricien.
La population de Maurice parle créole à 100%.
La très grande majorité des Mauriciens parlent le créole. C'est vraiment la langue commune à toutes les communautés qui composent la société mauricienne.
Alors, une traduction en créole, mais aussi une exposition à l'Institut français de Maurice intitulée « Écrire en français ». C'est pour contrebalancer ?
Non, pas forcément pour contrebalancer, mais c'est pour pouvoir explorer toutes les facettes de cette fête de la francophonie. Écrire en français, histoire de langue, voyage de mots. C'est une exposition qui est proposée par l'Alliance française de Paris, qui permet de découvrir des autrices et des auteurs du monde entier qui ont toutes et tous choisi la langue française comme moyen d'expression et de transmission. Cette exposition est très joliment illustrée. Et voilà, elle permet de voyager dans la langue française, qui est en fait difficile à illustrer. Mais c'est une très jolie exposition.
Vous allez aussi annoncer, c'est formidable, on entend les oiseaux quand on vous appelle, vous allez aussi annoncer oui. le coup d'envoi du choix Goncourt de l'île Maurice. Alors, il y a déjà 43 pays qui élisent un prix Goncourt local. Maurice sera donc le 44e pays, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pour septembre prochain, c'est pour l'édition 2025 du prix Goncourt.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce vendredi, donc juste après le lancement de l'ouvrage de Michel Ducasse, on fera une soirée de présentation et de lancement également, de top départ du prix Goncourt Choix de l'île Maurice. Donc, on a convié les étudiants, les lycéens mauriciens qui composent le jury de cette première édition. Et donc, ils auront quelques mois pour lire les quatre finalistes du prix Goncourt 2024. Et ensuite, en septembre 2025, un roman sera sélectionné par leurs soins parmi les quatre finalistes du Goncourt 2024. Et l'Institut français de Maurice s'engage à inviter l'auteur ou l'autrice qui sera choisie par les lycéens et les étudiants mauriciens.
Merci Anaïs Robert. L'exposition « Écrire en français, histoire de langue, voyage de mots » est à voir donc à l'Institut français de Maurice jusqu'au 30 avril. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.
Tout le monde arrange à peu, mais avant tu ne sais ce que je fais, c'est le meilleur, je veux que le meilleur. Quand ou pas j'essuie, je sais que tu me suis. Le touche en tout bain, tout l'or dans les mains. Appelle le T8, numéro 17. Appelle le T8, numéro 17. Fais-moi dans la bouche, à la moelle, à la tête, je me lève, tu te couches, je suis plus de l'Esther.
Pour le boire au serveur, il a compris qu'à mon cœur, il est tard. Dans mon sac à poche tard, je rencontre Manhattan Docteur ce soir. En concert, la quicheta devient pique, j'ai plus le temps de mes potes auprès de ma famille. C'est vrai, ça j'ai changé, c'est con, j'ai quitté ta vie en 3 secondes et demie. Est-ce que ça valait la peine qu'on se bouffe la gueule comme des chiens? Y'a des plaies, ça déchets trop à faire. Pas de rancœur et jamais de tête.
On donne les bruits, ouais. Pas de donne, pique et faible, nos bad gal, pique et faible. Ne mesure pas le succès, je m'ouvre comme un Cassius Clay. Badadan, pique et j'en fais, no bad girl, pique et j'en fais. J'suis tombé à pique, je ne sais plus m'inquiéter. Parle-nous bien, c'est tous les jours.
J'ai un café ton cours.
J'sais d'où j'pars, j'vais ski, même pas les tours.
J'ai un peu pour toi, c'est beaucoup.
Parle-nous bien, c'est tous les jours.
J'ai un café ton cours.
J'sais d'où j'pars, j'vais ski, même pas les tours.
J'ai un peu pour toi, c'est beaucoup.
J'vois plus qu'une couleur, j'ai pas gobé les couleurs. J'ai gardé la douleur, de toute façon c'est pas mieux quand c'est tout neuf. Bah ouais, je suis plus toute seule, ils veulent nous séparer, on est toutes sœurs. C'est ma vision de la douceur, je veux voir tout brûler, compter les fleurs. J'suis dans la partie, je fais pas de pause. Glisse des classiques, pas de produits low cost. Si je m'éparpille, j'ai pas de cause. J'ai que des amis, j'ai pas de potes. Mental de boss et poubelle, à te les voir tous couler. Moi qu'ils ont, c'est tout lèche. Même sans force, j'les soulève. Regarde-moi, j'vais saouler, j'fais ce qui touche, pas saouler. J'ai pas vu tous les gars, critique de tous les gars, mon rap c'est le départ. Badadan, pique et j'en fais, no bad girl, pique et j'en fais. Moi j'ai pas changé de voix, j'ai toujours pris ma part, j'mets toujours route là-bas.
Badadan, pique et j'en fais, no bad girl, pique et j'en fais. Dites-leur que j'suis bénique, la musique aussi. C'est pas les thunes, mais l'amour qui embellit. Dites-leur que j'suis bénique, la musique aussi. C'est pas les thunes, mais l'amour qui embellit.
Enfant du love, faites la zig, saveur pépite. Même si le parcours est pénible, jamais j'éteins les gens pour les lettres, pour l'étal, pour la hype, no way. Laisse-moi embrasser le monde de valeurs colorées.
Cœur sur la main, c'est mon côté gang. Bas solide, esprit libre, je navigue en plusieurs fils, pas de binarité.
Là où je vois des loups, au-dessus des peurs et des doutes. L'avenir n'est pas flou quand l'on est même sans un sou.
Je continuerai coûte que coûte, tant que de mon cœur, je suis à l'écoute.
Je sais pas ce que c'est la bravoure, au fond, c'est chacun son parcours.
Deel, Yend et Yelza, ce sont les trois gagnantes de l'édition 2024 de Rappeuses en Liberté. Et elles sortent leur premier single, Béni. Et c'est sur RFI, bien sûr. Olivier Letellier, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France, invité aujourd'hui pour Mauvaise Pichenette de Magali Mougel. Pourquoi avoir choisi ce texte? Est-ce que c'est une commande de votre part ou pas du tout?
Alors non, c'est pas une commande d'écriture. C'est un texte que Magali avait écrit il y a une bonne quinzaine d'années. C'est le premier texte que j'ai lu d'elle. Et je lui ai demandé de le réactualiser et de le redensifier un petit peu parce que c'était un très court texte. Donc elle l'a retravaillé pour l'occasion. C'est devenu Mauvaise Pichenette. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la thématique, l'histoire telle qu'elle était abordée.
Oui, parce que ça se passe dans une ferme, et c'est d'une actualité assez criante, puisque c'est l'histoire d'une grande ado, on va dire, qui s'appelle Anna, qui n'a pas été bossée ce jour-là pour se laisser entraîner dans un fait divers que l'on dira nauséabond.
C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la pièce, au début, on ne sait pas. Ça se passe effectivement dans
une ferme. C'est pour ça que je prends quelques précautions pour le raconter, mais on va le dire finalement.
Mais on va le dire.
Le suspense.
Donc, effectivement, on est dans la ferme. Il y a une table, il y a toutes les écritures qui sont là autour de nous. Et le grand frère, qui a repris la ferme familiale puisque le père est décédé, est avec la mère et ils attendent le retour d'Anna, l'adolescente, Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Et au départ, donc, quand elle arrive, avec les mobilettes et tous ses potes, tout ça, elle rentre. Au tout début, elle arrive avec des mobilettes. Et on sent qu'il y a une tension. Qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, elle arrive tard et à la fin, elle a envie de manger. Elle a cette obsession de manger un steak. Et sa mère et son frère lui disent, tu t'assois, il faut qu'on te parle. Tu t'assois, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on pense au début qu'effectivement, c'est une ado qui va se faire réprimander par son grand frère, engueulé par sa mère. À un moment, on entend qu'il y a les flics qui sont venus et qu'ils ont posé des questions pour savoir où est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'elle est allée à la colo où il y a un groupe de migrants, de jeunes migrants, qui est accueilli. Et là, contrairement à ce que l'on pourrait penser, en fait, ça va basculer et ça devient elle qui, avec sa bande de potes, est allée casser la figure d'un jeune gamin juste parce qu'il était là, dans cette colo, et à se dire, l'Europe, le département les accueille comme ça et eux, ils ont le droit à tout et nous, on a le droit à rien. Et donc, c'est ces idées qui sont en train de monter, qu'on le voit bien présentes de plus en plus sur ces idées racistes simplement qui se développent de plus en plus. Et donc, j'avais envie de parler de ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Magali de redéployer ce texte-là.
Donc, c'est un texte sur la montée du fascisme, en fait.
C'est ça.
Ou plutôt, comment il peut s'immiscer autour de petites phrases comme ça. On n'a droit à rien dans l'esprit d'une jeune fille ou d'un jeune garçon.
Exactement.
C'est du théâtre tout public ou c'est du théâtre pour la jeunesse?
Alors, c'est du théâtre tout public. Le théâtre pour la jeunesse n'existe pas. Les enfants ne vont jamais seuls au théâtre. Les ados non plus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'intergénérationnalité. C'est de se dire qu'on va vivre des émotions très, très fortes. Et selon l'âge que l'on a, on va pouvoir les ressentir ou les exprimer différemment. Et on va pouvoir échanger. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, de me retrouver dans une salle où il y a des publics de tous âges et qui vont pouvoir échanger justement sur ce qu'ils viennent de vivre, sur ce qu'ils viennent de ressentir. Des fois, certains vont rire pour des choses et ça va choquer les autres et inversement.
Et de représentation en représentation, est-ce que vous constatez des réticences ou des emballements? Est-ce que des jeunes gens, quand il s'agit de scolaires ou de jeunes publics, refusent de dire telle phrase ou au contraire a du mal à dire telle autre ou au contraire va trop loin dans l'une des phrases? Parce qu'il y a des phrases quand même qui sont très violentes, qui sont dites, et la situation est de plus en plus violente parce que après avoir tabassé ce jeune migrant, la jeune Anna va encore plus loin.
Alors, je ne vais pas tout dévoiler du texte, évidemment. On a fait en sorte que ce soit le comédien ou la comédienne qui porte le personnage d'Anna et qui ait donc toutes ces phrases qui sont difficiles à entendre pour qu'en face, on puisse réagir et leur donner l'occasion de réagir justement face à ces propos qui sont inaudibles. Maintenant, il y a toujours, après la représentation, des temps d'échange, de débat avec les jeunes. Et donc là, ils peuvent justement exprimer. Ou alors, on les voit réagir, effectivement, pendant, quand elle dit quelque chose, ils sont abasourdis, ils réagissent. Et là, ils se précipitent pour pouvoir prendre la réplique qui répond justement à ce qu'ils ne peuvent pas ou ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est là où ça devient extrêmement puissant. C'est-à-dire que, d'un seul coup, ils ont envie d'avoir des arguments et ils sont là, posés sur le papier, en face d'eux, et ils s'en emparent.
Dans ce dispositif de Kilt, qui dira le texte à haute voix, Olivier Le Tellier. Il y a donc les textes avec une portée comme ça un peu édifiante, en tout cas qui ne nous laisse pas indifférents. Et il y a aussi toujours ce dispositif scénique très ludique parce qu'on passe d'un panneau à un autre. Il y a du texte partout, en bas, en haut, mais il y en a aussi sur la nappe de la table, puisque là on est dans une pièce où on mange, enfin de repas. Il y en a aussi sous les assiettes, il y en a dans certaines boîtes que l'on peut ouvrir. Et visiblement, ce principe était le même pour les deux autres créations de Kilt, les règles du jeu et la mare aux sorcières, à la plus grande joie des jeunes.
Je pensais que ça allait juste être les affiches sur les murs en fait, qu'on aurait à lire, mais en fait non, il y a plein de trucs qui sont en boîte, etc. Donc c'est bien plus complexe, entre guillemets.
Tu cherches à prévoir le prochain objet ou prochaine façade où il y aura le texte. Au final, c'est un truc sous un tapis ou sur des petites pastilles. Sur un morceau de papier.
Je sais pas comment grandir sans toi, j'ai l'impression d'être bloquée dans le temps. Tu me manques vraiment, tu sais.
Je ne sens plus mes pieds, ils saignent. Je me demande si tu dors toujours sous les étoiles, Aldo.
Nous sommes arrivés dans un immense hangar. La mer n'est plus très loin, Aldo. Des milliers de personnes s'entassent ici.
Je ne suis pas un lâche, moi.
La lâcheté, c'est de renier ses rêves.
Les rêves sont pour les enfants, madame.
Alors c'est ce que je serai toujours.
Olivier Le Tellier, vous êtes un adulte ou un enfant ?
Alors c'est sûr, je suis un adulte, mais je crois que j'ai gardé vraiment une part d'enfance. En fait, moi j'ai inventé ce dispositif parce que la lecture à voix haute est quelque chose qui me tétanise. Ça me fait peur. Vous me demandez là de prendre un papier et de lire un texte, ça m'angoisse.
Bon, soyez et calme, c'est pas prévu.
Je sais, mais depuis l'école, c'est comme ça. Alors je me suis dit, comment est-ce que je peux en faire un jeu ? Parce que j'adore jouer et que ça me donne envie. J'ai envie de lire un texte, j'ai envie de découvrir ça. Et donc là, on a fait en sorte d'inventer ce dispositif-là pour jouer ensemble. Et c'est vraiment un jeu de lecture. C'est un peu comme un escape game de la lecture théâtrale.
Mais pourquoi la lecture à haute voix vous tétanisez, vous faisait peur à ce point-là ?
Je sais pas, parce qu'il y a les autres qui m'écoutent, parce que je bute sur les mots, parce que c'est un exercice où il faut exceller. Et voilà, je sais pas, ça me fait peur.
Aujourd'hui encore ?
Ah ouais.
Vraiment ?
Ah oui.
Alors que vous êtes conteur, acteur, metteur en scène, aujourd'hui ça vous fait peur encore ? C'est étrange.
Ben ouais, j'ai aucun problème à raconter une histoire, à être sur scène devant des gens pour raconter quelque chose. Mais par contre, dire un texte, peut-être que c'est un souci ou une peur de ma mémoire.
En tout cas, dans votre spectacle, dans vos spectacles, dans ces formes kilt, on joue au sens de l'enfant qui joue avec des objets. C'est vraiment très, très ludique et très inventif. Parce qu'il ne se passe pas deux minutes sans qu'on soit obligé d'aller retourner à un truc, d'aller chercher un bout de texte. Ben voilà, on s'ennuie jamais.
C'était l'idée de montrer aux jeunes spectateurs que lire ensemble et à voix haute, ça peut être un vrai jeu. Et à la fin, la dernière scène, le comédien sort le livre et lit sur le bouquin les dernières lignes de la pièce. On ferme le livre et on leur offre. On offre aux spectateurs, à un des 15 spectateurs, on offre le livre. Et pour eux, se rendre compte qu'ils viennent de lire tout un livre ensemble et de prendre du plaisir à ça, c'est extraordinaire. Je me souviens quand on était en répétition, pas de celui-ci, mais du second, dans une école primaire, où il y a une petite qui s'aime. Elle lit tout un petit paragraphe et elle a à peine terminé, elle se retourne vers son instit et elle dit « Maîtresse, maîtresse, je lis et j'aime ça ». Et après, l'instit va nous dire que c'est une jeune fille qui est en difficulté scolaire. Et quand on voit les gamins de SECPA ou autres, ou des gamines qui ont été un petit peu retors pendant la pause, après, se retrouvent dans la salle juste à côté avec le bouquin, à replonger dedans, essayer de comprendre ce qui se dit, essayer de trouver, parce qu'évidemment, c'est une adaptation, on a enlevé, il n'y a pas l'intégralité du texte, essayer de trouver ce qu'on a enlevé ou pas, de replonger dedans, ça fait plaisir.
Mais les profs ou les parents doivent vous bénir.
Je crois
vous êtes saint Olivier Le Tellier, non ?
Pas à ce point. Mais effectivement, ils aiment beaucoup le dispositif, ouais. Ben, c'est quand même génial, un truc qui nous donne envie de lire ensemble et qui nous donne envie de nous plonger dans un bouquin.
Et encore une fois, c'est ça, très c'est inventif, magique. Ça n'avait jamais été fait de cette manière-là.
Non.
Il y a plein d'expériences de lecture en partage, des arpentages, etc., etc. Mais de cette façon-là, en impliquant le public, le spectateur, non. D'autant qu'il n'y a pas d'ego. Il ne s'agit pas de bien jouer.
Surtout pas.
Surtout pas si on joue un peu.
Non,
si
je parle de la part des comédiens. C'est-à-dire que si le comédien est trop impliqué, trop comédien, justement, ça inhibe les spectateurs qui n'oseront plus faire pareil. Donc il faut aussi, en tant que comédien, et c'est pour ça que c'est possible uniquement par des comédiens, parce qu'ils vont avoir cette attention à qui est là, cette attention à leur partenaire de jeu, puisque là c'est le public qui devient leur partenaire de jeu, et cette manière d'exprimer, de ralentir, des fois si le public va trop vite, ça se fait par mimétisme. Si le comédien est trop impliqué et va trop rapidement, eh bien du coup... le public va aller speeder aussi, alors qu'il ne faut pas.
Mais il se passe quelque chose chez le comédien, en tout cas dans l'expérience que personnellement j'ai faite en assistant à cette représentation, c'est qu'il y a une grande générosité de la part du comédien qui vraiment, par le regard, par quelques gestes assez doux, amène l'un puis l'autre, puis un troisième, puis un quatrième à prendre la parole sans jamais forcer, mais avec un très grand sourire tout le temps.
C'est ce qu'on a cherché à faire, oui.
Vraiment, mais quand je parlais, oui, de la générosité, quand je parlais de bien jouer, je parlais du spectateur. On n'est pas obligé, je n'ai pas besoin d'être Gérard Philippe pour participer à un kilt, à une lecture à haute voix.
Non, pour moi, c'était important que chacun puisse, et même si des lecteurs anonnent ou lisent mal ou butent sur les mots ou ne donnent pas du tout l'intention de la phrase, comme le texte est visible pour 90% du texte, est visible par l'ensemble des spectateurs. Donc même s'il y en a un qui lit mal, eh bien, c'est pas grave, les autres peuvent quand même suivre l'histoire, venir prendre le relais s'il y en a un qui est un peu en galère. Donc, il y a vraiment quelque chose de collectif qui se passe. Et il y a aussi le fait qu'on soit dans ce dispositif-là, c'est une expérience plastique, esthétique aussi, qui a été travaillée avec différents plasticiens, différents graphistes, pour nous plonger dans une ambiance visuelle, dans une scénographie textuelle qui est extrêmement belle. Et qui nous donne envie de lire. Donc il y a tout ce travail-là d'attention au public pour donner quelque chose de beau, quelque chose de généreux, pour leur donner envie de lire.
Alors après, vous l'avez signalé, Olivier Le Tellier, après chaque représentation, il y a un échange avec le public. Qu'est-ce que vous apprenez, notamment quand il s'agit de scolaires, qu'est-ce que vous apprenez de ces jeunes générations qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, par rapport à la problématique de la montée du fascisme, par rapport à leur regard sur le théâtre, sur la littérature, sur le fait d'être ensemble quand les trois quarts du temps, c'est un peu caricatural, mais les jeunes sont soit sur un terrain de foot, soit sur le téléphone. Ouais.
Mais on apprend qu'en fait, ils sont très engagés, que en fait, cette société-là, ils ont envie, enfin, ces idées-là, ils ont envie de lutter contre pour beaucoup. On leur donne dans les ateliers, non pas des arguments, mais les moyens d'aller chercher des arguments, de ce que c'est que d'échanger, de ce que c'est que de se questionner, d'écouter l'autre, et puis de donner un contre-argument. On partage avec eux toutes ces choses-là. Et c'est très, très beau, justement, de sentir qu'ils n'ont pas envie de rester sur le côté, ils n'ont pas envie d'être des enfants qui ne sont pas concernés par la société, mais ils ont envie de prendre part et d'être des citoyens à part entière de ce monde qui est le leur aussi.
Mais voilà une bonne nouvelle.
Je crois, ouais. Moi, en tout cas, je suis plein d'espoir.
Merci beaucoup, Olivier Le Tellier. Mauvaise Pichenette, c'est donc la troisième forme de ce dispositif Kilt qui est actuellement en tournée, et en tournée pas très loin de ces studios, puisque vous êtes dans la mairie du 20e arrondissement avec les Plateaux Sauvages, et ce jusqu'au 29 mars, puis vous filez à Chalon-sur-Saône. Merci beaucoup de vive voix à Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.